13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
AVS à votre santé. Pour ceux qui ont de la mémoire, il y a un an, à la même date, on faisait une émission sur l'or rouge.
Exactement.
C'était les tomates. Chez voilà. Ça va, chez voilà.
Ça va et toi?
On a démarré la veille du ramadan.
Oui, on a fait exactement la même chose.
Cette année, on fait pur. On fait
pire. En fait, tu fais pire. Voilà, tu commences par des petits poisons, enfin, déjà des bons poisons, et puis tu augmentes
la dose.
Alors, l'année prochaine, je sais pas, ça va être quoi.
Je sais pas ce qu'on fera.
Bah, là, c'est déjà, on va dire, on est déjà au summum de la puissance, quand même, en fait, du poison qu'on peut consommer. Donc, on va justement élucider un petit peu ce mystère avant le ramadan. Moi, je trouve que c'est une excellente émission avant de commencer notre ramadan, puisque cette émission est basée, donc, sur le sucre.
Sur le sucre. Bernard Pellegrin est notre invité. Monsieur Pellegrin, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes journaliste et vous publiez Sucre, enquête sur l'autre poudre chez Talendier. C'est pas un peu exagéré quand même de dire l'autre poudre?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on regarde les choses comme l'ont fait un certain nombre de chercheurs, notamment au CNRS, du point de vue de l'addiction, non. Au niveau, bien sûr, des conséquences, il serait ridicule de dire que manger du sucre, ça a les mêmes conséquences pour la santé que de se droguer à la cocaïne. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des conséquences sur la santé, on va le voir ensemble, j'imagine. Et cette poudre qui est le sucre, qui a une histoire, est effectivement addictive.
On va démarrer par une enquête qui a été beaucoup reprise et que je sais que vous citez souvent chez Voilà. C'est une enquête de 2007 qui est menée par Serge Ahmed, qui est donc chercheur au CNRS à Bordeaux et qui est l'auteur d'une étude qui a révolutionné la vision qu'on avait jusqu'ici du sucre. Qu'est-ce qu'il fait, Bernard Pellegrin?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que lui est addictologue et... Pendant longtemps, il a travaillé sur ce qu'on appelle les drogues dures, l'héroïne, la cocaïne. Et un jour, pour des raisons purement scientifiques, il s'est dit, il faut proposer un choix aux souris de laboratoire à qui on fait ingurgiter de la cocaïne. Et ce choix s'est porté sur l'eau sucrée. Et là, il a découvert, et ses équipes avec lui, que les souris se dirigeaient vers l'eau sucrée et plus vers la cocaïne. Enfin, au départ. Et cette expérience a été renouvelée de nombreuses fois par Serge Ahmed, mais aussi par des tas d'équipes de chercheurs dans le monde pour vérifier s'il y avait...
Pour valider, oui.
Voilà. Et effectivement, à chaque fois, ça marche. Et il y a une deuxième chose qu'il faut mettre en parallèle, c'est que la définition de l'addiction, il y a une vingtaine, il y a une trentaine d'années, était beaucoup moins large qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on considère de façon tout à fait sérieuse et tout à fait établie qu'on peut être addict, comme on dit dans le langage de tous les jours, à des tas de choses autres que l'alcool ou le tabac.
Le téléphone, les réseaux sociaux, les jeux,
le sport, l'eau, etc. Et que toutes ces choses, quand elles sont consommées de façon exagérées, ont des conséquences sur la santé parce qu'elles sont exagérées. Et avant de poursuivre, je veux juste dire une chose, c'est qu'il est indispensable pour le corps humain de manger, non pas du sucre, mais d'avoir des glucides. Corps humain, notamment le cerveau, ne peut pas fonctionner sans glucides.
Bon, sur quoi les pros sucre vous répondent qu'on n'a jamais vu un addict au sucre attaquer une supérette pour voler un paquet de caramel mou.
Oui, c'est pas la même addiction,
c'est clair.
C'est
pas, en fait, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je trouve que c'est un peu plus vicieux que ça. Et quand on rentre dans le vif du sujet, on s'aperçoit qu'en réalité, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il y a deux choses qui sont totalement différentes. Je m'explique. Quand on consomme du Coca-Cola, et justement, vous le dites dans votre livre, qui est vraiment déjà très, très bien fait, très intéressant. Merci. Quand on consomme du Coca-Cola, on va penser psychologiquement, en fait, que l'on est addict au Coca-Cola. Il me faut ma dose de Coca-Cola parce que, voilà, c'est comme ça, et les gens, voilà. En réalité, ils sont addicts à la puissance du sucre que leur corps va recevoir très rapidement. Et cette habitude-là, elle se fait psychologiquement, comme vous l'expliquez très bien, mais dans le cerveau humain. Et en fait, l'être humain a tendance, mais ça c'est partout, hein, en fait, à prendre vite ces habitudes-là. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, tout simplement, vous allez nourrir le microbiote, vous allez nourrir le sang, vous allez nourrir les éléments essentiels, le sucre va passer partout. Donc c'est là où c'est addict, où c'est parce qu'il passe dans le sang, contrairement à l'héroïne ou à la cocaïne, justement, qui sont totalement différents. Donc pour moi, aujourd'hui, on va dire qu'on parle du problème du sucre depuis un petit moment, mais en réalité, on sous-estime réellement son problème. Il est la cause pour moi, mais après ça reste mes recherches et puis aussi ma vision des choses et aussi mon expérience professionnelle, extra-professionnelle dans la matière. Tu sais qu'on combat le sucre, nous, et pas que, mais depuis plusieurs années déjà. Donc à partir de là, il faut déjà, je pense, la base numéro un, se dire que le sucre, c'est une vraie drogue. Même si on veut pas le dire, même si on veut pas on l'explique, pour moi, c'est une vraie drogue. Puisque aujourd'hui, je donne un exemple tout bêtement.
Bon, hier, mon frère... Pourquoi pas poison? Non, mais c'est ça. On peut dire le sucre est un poison.
Il faut être rigoureux. Une fois, il est nécessaire, absolument indispensable pour le bon fonctionnement du corps humain.
Le premier homme, il mangeait pas de sucre.
Non, mais il y a des glucides ailleurs que dans le sucre.
Dans le pain, il y a des glucides partout.
Mais il mangeait pas de pain.
Il y a des glucides dans les lentilles. Le premier homme, il mangeait sans doute de ce qu'on appelle maintenant des légumineuses.
La légumineuse.
Et les légumineuses, c'est un excellent moyen de remplacer le mauvais sucre, le sucre simple, par des sucres complexes qui, eux, n'ont aucun effet négatif sur le corps. Donc, manger des fèves, manger des lentilles, manger des haricots, comme des générations et des générations de paysans sur l'ensemble de la planète, dans tous les coins du monde, et vous vous porterez très bien.
Vous savez que tous les soirs, pendant le mois du Ramadan, il y a des bouteilles de Selecto, de Coca-Cola, d'Oasis. Alors, on parle toujours du Coca-Cola, sauf que j'ai vu dans votre livre que le Red Bull et l'Orangina et le Tropico, c'est bien pire.
Oui, bien pire.
Non, parce qu'on cite toujours en exemple le Coca-Cola, mais c'est pas le pire.
C'est ce qui est le plus vendu, Philippe, si tu veux, c'est le plus fréquemment consommé.
Le Red Bull, c'est 8 morceaux de sucre.
Ouais, le Red Bull, c'est pire encore. Ouais.
Par canette. Voilà, c'est ça.
Enfin, il faut bien prendre en compte que l'Organisation Mondiale de la Santé fixe à 50 grammes par jour avec comme objectif 25. C'est-à-dire 5 morceaux de sucre, 6 morceaux de sucre, pas plus.
Par jour et par personne.
Par jour et par personne. Donc quand vous avez bu votre canette de Red Bull, pour ne pas la nommer, c'est terminé, il n'y a plus de sucre. Sauf que, on le sait, le sucre est caché.
Il est partout.
Partout, par l'industrie agroalimentaire. Donc quand vous croyez ne pas en manger, vous en mangez. Et moi j'ai fait une petite expérience qui est rapportée dans mon livre. Je suis allé dans un supermarché dans le 18e arrondissement de Paris pour regarder un petit peu, j'ai passé toute la journée.
Non, regardez pas le chez vous, voilà, parlez dans votre micro.
Voilà.
Essayez de faire les deux en même temps.
Ouais. Voilà. Pour regarder un petit peu tout ce qui était proposé. On dit en général que si on enlevait tous les produits qui ont du sucre dans un supermarché, il resterait à peu près 20 à 25% de produits sur les étagères. Et il y a du sucre partout.
Dans le dentifrice.
Dans le dentifrice. J'ai regardé aussi, par exemple, des filets de dinde halal. Eh bien, dans les filets de dinde halal, il y a du sucre.
Dextrose.
C'est un exhausteur de goût, le sucre. Donc, on est obligé de l'implanter partout. En fait, il a été utilisé par l'industrie agroalimentaire depuis plusieurs années. Mais alors, après, il faut comprendre que les études sur le sucre, elles existent déjà depuis un très long moment, bien avant le changement de mode de consommation. Monsieur a parlé justement, on a eu un changement ces 30 dernières années de consommation. Le consommateur ne consommait pas autant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas autant de produits comme il y a actuellement sucrés. Il n'y avait pas autant d'industries. Je rappelle qu'en 70-75, on avait un mammouth ou deux en France. Donc, on a vachement évolué et tout a été très, très vite. Notre mode de consommation aussi. Et je donne un petit détail quand même, parce que c'est quelque chose qu'il faut penser. Imagine-toi qu'aujourd'hui, malgré toute chose, c'est quand même important de le savoir, notre corps a subi une transformation, j'ai envie de dire, surréaliste par rapport au mode de consommation il y a 30 ans et à la vitesse d'exécution sur laquelle toute la population a changé. Mais en même temps, il a eu une capacité d'adaptation qui a été extraordinaire. Et c'est l'avantage qu'il a aujourd'hui.
D'adaptation, bien sûr, vous avez raison, mais le diabète explose.
On est d'accord, bien sûr. Ah oui,
explose,
oui.
Et tout ça a bien sûr quand même.
Ah, attendez, parce que du coup, Bernard, on vous entend plus.
On lui a coupé le micro.
C'est la CIA, moi je dis. moi je dis, les lobbies du sucre sont dans les studios. Voilà.
Est-ce qu'on m'entend?
Ah, voilà.
Ah, c'est formidable.
Bon, alors, vous dites que la CIA tient en ligne le classement de l'obésité dans le monde.
Absolument.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi l'agence de renseignement américaine s'intéresse-t-elle à l'obésité? Enfin, moi je la voyais s'intéresser plutôt aux terroristes, vous voyez pas, mais pas.
Alors, j'aurais pas de réponse avec certitude, mais moi j'ai tendance à penser que la CIA sait que l'obésité est un problème pour les sociétés, un facteur de déséquilibre, un facteur de difficulté sanitaire. Elle donc, parce que c'est une agence de renseignement, elle classe les différents pays aussi en fonction de l'obésité. Et puis aussi parce que c'est un léger problème aux États-Unis. Enfin, léger, oui, c'est un jeu de mots. Si on enlève un certain nombre de petits pays qui comptent un peu pour rien dans le classement de la CIA,
qui sont au tout début, hein, qui sont en tête.
ben les États-Unis sont très très haut dans la liste, alors que la France, par exemple, est beaucoup 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 plus bas. Il y a des pays qui sont des avaleurs de sucre. Hein. Le Mexique, c'est monstrueux. Un certain nombre de pays
Mexique,
du Maghreb, c'est monstrueux.
L'Algérie,
L'Algérie, l'Égypte.
Le Mexique qui est le plus gros consommateur de Coca-Cola au monde.
Le prix du Coca est moins cher que l'eau.
Faut savoir ça.
Oui. Alors, il faut savoir aussi qu'un des grands présidents mexicains était le patron de Coca-Cola Mexique. Mais c'est vrai qu'au...
C'est pas dans votre livre, hein, ça, mais...
Si, c'est dans mon livre.
J'ai pas vu ça.
Oui. Mais c'est vrai qu'au Mexique, les gens boivent du Coca à la place de l'eau. Et il y a énormément aujourd'hui de familles, foyers où les sodas, pas que le Coca-Cola, ont tendance à remplacer l'eau. Et là, c'est assez dramatique, effectivement.
Et vous le voyez, les soirs donc de Ramadan, les gens ont sur la table, il n'y a pas de bouteille d'eau. La bouteille, c'est soit un oasis, soit une bouteille de Coca. Alors on se dit, le Coca Light, c'est bien, j'ai vu à la télévision que ça avait l'air frais, ils sont sous la cascade, machin, donc ça désoif, mais non.
Il y a deux erreurs que font les gens en règle générale, et notamment les musulmans en période de Ramadan. C'est déjà la première de boire du sucre, ça c'est une catastrophe, au départ et à jeun, et en plus frais. Donc c'est une double catastrophe. Le problème, c'est que toute la journée...
Parce que chaud, ça se boit pas, hein. Je dis tout de suite. Température ambiante...
Surtout quand vous êtes à jeun, ça, je veux dire, vous choquez vos organes, on a un corps qui est à 36 degrés, il y a d'une logique pure à un moment donné à avoir avec soi-même. On a un corps à 36 degrés, vous allez lui donner 4 degrés ou 2 degrés ou 1 degré directement avant, et vous n'avez rien consommé pendant 15 heures. Donc à un moment donné, en plus du sucre, alors l'acide phosphorique, si ce sont des boissons, voilà, et compagnie, comment voulez-vous que votre microbiote, que votre estomac réagisse correctement? À un moment donné, vous faites, avant, je vous l'ai déjà dit, de prendre un terme religieux, prenez-le comme une purification. C'est une purification du corps, ça permet un renouvellement cellulaire, donc autant en profiter. Ce que vous faites, c'est une bêtise. Mais vraiment, c'est insensé, puisque vous êtes privé 15 heures, et après, en une seconde, c'est-à-dire que vous avez massacré tous les efforts que vous avez faits. Et comme dit monsieur, le sucre...
Bernard,
le sucre, en fait, aujourd'hui, c'est une dépendance, une vraie dépendance. Alors, effectivement, la CIA est au courant, mais pas que...
Mais ça, j'arrive pas à comprendre. Chef, voilà.
Oui.
Revenons sur la dépendance. Est-ce que, finalement, du jour au lendemain, on pourrait... décider de manger sans sucre et souffrir d'un effet de manque.
Oui, bien sûr. Essayez.
Essayez
de vous passer des aliments sucrés qui sont un peu votre péché mignon. Alors, je ne sais pas lesquels c'est. Cette pâte chocolatée d'origine italienne, la confiture, que sais-je. Vous arrêtez et vous allez voir. Vous allez vous surprendre à ouvrir le placard pour voir si j'en prendrai pas un peu. Le frigidaire,
mais
pour voir
clair.
Si j'en prendrais un peu. Bien sûr qu'il y a une dépendance. Et cette dépendance, son problème, c'est que... Moi, dans mon livre, j'essaye d'expliquer ça sous la forme du couple offre et demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande en sucre, et il y a une offre monstrueuse en sucre. Il suffit de se balader dans un supermarché. Il suffit de regarder un caddie le samedi après-midi. Et les gens, bien sûr, dans cette espèce de couple infernal qu'est l'offre et la demande... Eh ben, succombe parce qu'ils ont des publicités, parce qu'on leur fait goûter, parce que les enfants disent, moi, je voudrais ça, etc., etc. Si l'offre était un tout petit peu plus contrôlée, maîtrisée, si les gens avaient un tout petit peu plus d'informations, parce que pour savoir qu'il y a du sucre caché dans un filet de dinde halal, il faut aller regarder ce qu'il y a écrit en tout petit. Et donc,
alors c'est, là, ce que vous dites, c'est du dextrose de maïs, voilà, et même du caramel.
Oui, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de caramel. Il y a du dextrose
dans le filet d'un halal, hein, de chez Fleury Michon.
Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans du sucre du miel. Là, on est dans du sucre raffiné. Attention, faut aussi faire la différence entre le sucre que l'on veut avoir naturellement. Donc aussi bien dans les légumineuses que dans le miel ou dans beaucoup de fruits ou de légumes, et le sucre raffiné, ce sont deux sucres totalement différents dont le corps les réceptionne aussi différemment. Le sucre raffiné, c'est quoi? C'est-à-dire que dès que je reçois l'information, par exemple en buvant du Coca, on va prendre l'exemple du Coca, puisque je connais beaucoup cette boisson autour de moi, les gens consomment énormément, leur cœur s'accélère. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous avez une canette de Coca, et vous le voyez vous-même, vous commencez à boire une première gorgée, ok. au bout de 2 à 3 minutes, vous allez être obligé de prendre une deuxième gorgée. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tellement sucré. Vous avez, s'il n'y avait pas d'acide phosphorique dans ce coca, vous vomiriez déjà. Vous ne pourriez pas le boire. Ça, c'est déjà la base. Il faut le savoir. C'est que votre système va s'emballer, votre cœur va s'accélérer, et au bout de 2-3 minutes, il va redemander, puisque le sucre étant l'énergie, automatiquement, vous allez reboire la canette et vous allez la terminer progressivement. Alors que si je vous mettais une bouteille d'eau et que vous avez soif, vous allez prendre 2-3 gorgées, et l'eau, vous allez laisser à sa place. Et ça, notamment, surtout en période de Ramadan, c'est là où est le danger. Le sucre, il va vous causer des problèmes, bien sûr, parce que quand vous allez en consommer d'un seul coup et ne pas en consommer pendant 15 heures, comme disait Bernard, le risque d'hypoglycémie va être très présent, et même si vous n'êtes pas diabétique.
Bien. Est-ce que vous avez chez voilà ce qu'on appelle le bliss point?
Le bliss point.
Qu'est-ce que le bliss point?
Non, mais non, après la pub, parce que là, vous voyez, on crée un état de manque. Vous voyez, c'est ça.
Après la pub,
les gens veulent tellement savoir ce que c'est que le point G du sucre ajouté, on en parlera tout à l'heure, qui vont patienter le temps de cette courte page de publicité.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Alors oui, on va le dire, on est en guerre contre un poison, c'est le sucre. On en parle ce matin avec Bernard Pellegrin, qui est notre invité, il est journaliste, il publie Sucre, enquête sur l'autre poudre aux éditions Talendier. On parlait tout à l'heure du Bliss Point, ça, c'est la partie qui plaît au chez voilà, parce qu'il y a des lobbies, les lobbies du sucre, tout ça, mais tout ça... C'est très bien organisé, voilà, il voit des lobbies partout. Donc là, il y a un vrai lobby du
sucre. Non, j'en vois pas. Pour le sucre, enfin, dans l'agroalimentaire en général,
il y en a des vrais.
C'est très clair.
Ils sont institutionnalisés.
Il y en a eu d'énormes aux États-Unis et il y en a en France.
Bon.
Alors, il faut raconter un tout petit peu ce qu'est le Bliss Point. Le Bliss, c'est un terme anglais qui veut dire le point de délice. Voilà, le moment où c'est absolument délicieux du point de vue de celui de l'agroalimentaire, avant que ça ne devienne écœurant. Voilà. Donc en fait, ça revient à dire quoi ? Ça revient à définir la dose maximale de sucre qu'on peut mettre sans que le consommateur soit absolument écœuré. Et donc c'est assez compliqué. Il y a eu des dizaines d'études scientifiques de fait sur le sujet par les Américains, et les Américains sont devenus des spécialistes de ce Bliss Point. Il y a des tas de journalistes aux États-Unis, notamment au New York Times, qui ont enquêté là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il y a des lobbies. Ce qu'il faut encore savoir, peut-être que ça intéressera vos auditeurs, c'est qu'au départ, le lobby du sucre provient en partie du lobby du tabac. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le lobby du tabac est à l'œuvre et pousse les Américains à fumer le cowboy Marlboro, etc. Et puis un jour, il arrive une période où clairement, on ne peut plus faire la publicité du tabac parce que tout le monde est au courant que ça donne le cancer. Et à ce moment-là, une partie des lobbyistes qui travaillaient pour le tabac,
dont c'est le métier,
et donc ont
des méthodes, voilà,
absolument, se redéploient sur le sucre et investissent largement pour faire la promotion du sucre. Et ce qu'il faut encore savoir, qui est très intéressant, c'est que il y a deux lobbies à un moment donné qui s'affrontent dans les années 70-80, qui est celui du sucre et celui des matières grasses, qui finalement finira par être reconnu par le public comme le responsable de la mauvaise santé, de l'obésité, etc. Et le lobby du sucre, plus puissant que l'autre, finit par obtenir l'idée dans l'opinion publique que c'est les matières grasses qui sont le vrai problème et pas le sucre.
Alors, c'est très vrai ce qu'il dit, mais en plus de ça, s'il y avait une alternative, et c'est ça le pire c'est vrai, ça, c'est magnifique, là, franchement. En fait, si tu sais que le sucre, par exemple, ils ont réussi à faire passer le gras, comme il a dit, pour mauvais et le sucre pour bon, alors que le gras, le beurre, peut à 90% remplacer le sucre.
Alors on a une réhabilitation
du
bon
gras
du
beurre, hein, voilà, pour remplacer le sucre. Justement, c'était l'effet contraire. Donc c'était, et on a fait
quoi, ce qui est dramatique, c'est le mélange des deux. Hein,
ouais, c'est
mais,
ça.
Voilà.
C'est
exactement. Mais il y a des théoriciens, il y a des gens dont le métier c'est de faire passer des idées.
L'lobbyisme, tout simplement. Voilà. Ah, les idées, c'est carrément de faire en sorte que la part de marché des gens qui travaillent avec le sucre croisse, devienne plus importante que celle de ceux qui travaillent avec les matières grasses.
Après, alors en France, il y a
Philippe, tout le monde sait. Excuse-moi de te couper. Ouais. Tout le monde sait qu'à un moment donné, le monde entier, tous les êtres humains qui ont un peu de savoir savent que le lobbyisme, ils sont partout dans le monde entier.
Ah, bien sûr.
Donc c'est eux qui contrôlent.
Oui, mais là, pour le coup, on a des noms, puisqu'ils ont pignon sur rue. En France, le lobby du sucre se cache derrière l'acronyme CEDUS. Voilà. C'est le Centre d'études et de documentation du sucre. Donc c'est un centre de rien du tout. Ils sont juste là pour vous refourguer leur cam.
Oui, et pour vous attaquer en justice. Ouais, ils m'ont attaqué en justice.
Oui, ils vous ont attaqué en justice.
Bah oui, mais oui.
En justice, ils voulaient obtenir.
Même nous, peut-être que voilà, on peut.
Pour quelle raison, Bernard?
Alors, extraordinaire d'ailleurs, le thème principal c'était discrimination et injures faites au sucre.
Ah ouais.
Donc c'est quand même c'est un petit mal. Peu surréaliste, quoi, parce que moi j'ai dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais alors si je dis que, je sais pas, moi, le beurre est gras, et c'est discriminatoire. Il faudrait que je dise que, je sais pas, moi, que l'uranium c'est radioactif, c'est discriminatoire.
Mais ils ont réussi à accepter la plainte pour ça.
Alors, il y a eu toute une série de péripéties judiciaires dont je vais épargner l'énoncé à vos auditeurs. Sachez juste que, et mon éditeur et moi-même avons gagné, et que le CEDUS a été débouté.
Voilà. Alors en France, c'est le CEDUS. Aux États-Unis, c'est le Big Sugar.
Voilà.
Alors eux, ils sont plus actifs. Hein.
Ils sont beaucoup, beaucoup plus puissants. Oui, beaucoup, beaucoup plus. Et ils ont toujours répondu de façon extrêmement agressive à toutes les campagnes qui ont été menées, notamment par les responsables politiques, pour essayer d'avoir des campagnes sanitaires pour le bien public et donc faire en sorte que les gens consomment moins de sucre. L'obésité aux États-Unis, ça prend rien.
Michel Obama en a fait son...
Absolument. Est un vrai problème de santé publique. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis maintenant. Hein.
Alors, qui sait par exemple, parce que c'est génial, vous expliquez comment les bouteilles grossissent. Parce que, je sais pas si vous avez regardé un pot de Nutella. Regardez un pot de Nutella, il y a 10 ou 15 ans, c'était un verre. Donc vous faisiez la collecte.
Bien sûr, pour le système américain.
Maintenant, c'est un pot d'un kilo.
De voilà, plus en plus.
Et les bouteilles de Coca, c'était un litre. Maintenant, c'était les Jumbo. Voilà. On appelle ça des... Alors, il y a plusieurs noms.
Il y a plus de trucs. Il y a galons, le Gulp. Il y a
le Gulp.
C'était KFC, ça. Bon, c'est les Américains. Mais les Américains, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et effectivement, il y a eu toute une série de chaînes où on buvait du Coca, du Pepsi, du Fanta, etc., qui proposaient à leurs consommateurs des portions de plus en plus grandes. Mais comme
ou même à volonté.
Pire encore, ici en France, ils le faisaient, ça a été interdit il y a 6 mois. Et les Quick et les McDo, enfin, laissaient à volonté, ils mettaient la machine donc derrière les caisses. Et en fait, les gens pouvaient prendre 3 litres de boisson. Ils l'ont arrêté assez rapidement parce qu'ils se sont aperçus de la consommation, de la surconsommation.
Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont venues essayer de limiter, contrôler tout ça. Il y a un certain nombre de gouvernements, de pays, dont la France, qui ont installé des taxes soda qui fait que, effectivement, les sodas sont un petit peu, enfin, les entreprises de soda sont un petit peu limités aujourd'hui dans leur expansion. Mais la réalité de tout ça quand même, c'est que le système, le modèle du tout sucre, ce que les Américains appellent la civilisation du sucre, est en train de s'étendre absolument partout. Moi, j'ai une amie thaïlandaise, en Asie, on mangeait très peu de sucre jusqu'ici, et j'ai une amie thaïlandaise qui me disait l'autre jour, aujourd'hui, les mères de famille donnent à leurs enfants des pâtes, la pasta, quoi, avec du sucre.
Imagine-toi déjà le glucide qu'il y a dans les pâtes.
Parce que c'est bon. On leur fait croire que c'est bon.
Non mais. Mais
c'est récompensant immédiatement, c'est ce que vous disiez. Immédiatement.
Psychologiquement, ça te fait du bien. C'est une dose que tu as. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vrai ce qu'il dit. Rentrer dans le placard. Qui n'est pas rentré un jour à la maison, qui s'est privé de sucre. Mais regarde les jeuneurs. Prenons les jeuneurs. Qu'est-ce qu'ils font la première des choses? C'est très rare. En général, ils mangent une soupe.
Que tu manges une soupe de navet après, ça c'est sûr.
Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours chercher le sucre au départ. Toujours. Ils ont besoin.
Le sucre est une récompense. Du côté du psychanalyste, de l'inconscient, on sait que le sucre est une récompense. Le sucre, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, c'est souvent de l'amour. Une mère donne du sucre à son enfant parce que elle lui donne un petit peu d'amour via le sucre. Toutes les mères du monde entier font ça. Et donc, quand on va mal, quand on a le moral à zéro, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait pas ce que vous dites. On va pas manger une soupe au navet. On va chercher un peu de sucre.
Ouais.
Et dans le livre, il y a une psychanalyste qui est une spécialiste du traitement des personnes obèses, du traitement psychanalytique des personnes obèses, et elle dit de façon un petit peu comme ça pour rire, mais ça a une signification. On dit un bonbon. On dit pas un mauvais mauvais.
Ouais, c'est vrai. Un bonbon. Ouais, c'est pas. Ouais. Après, c'est vrai que aujourd'hui, moi, je dis toujours que le principe de l'éducation alimentaire de nos enfants, c'est la base numéro un. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai aussi des enfants en bas âge, de petites jumelles. Et justement, ben, on va dire, je me fais mes expériences sur elles. Ben, mes filles, maintenant, elles me réclament des œufs et du fromage. Elles me réclament pas de céréales.
Si vous leur
j'ai acheté des croissants, maintenant, j'avais pas le temps. Elles ne les ont pas mangées.
Si vous regardez le petit déjeuner d'un enfant en France aujourd'hui,
c'est catastrophique.
C'est des céréales avec, si possible, du chocolat dedans. Pas des céréales toutes nues, des céréales avec des trucs en plus.
Alors qu'ils imaginent même pas le taux de sucre. Déjà, quand on donne un bol, je le rappelle, un bol de céréales à un enfant, parce que c'est des gros bols qu'il mange le matin, avec le lait qui est archi sucré aussi, il a déjà sa dose de sucre pour la journée.
Ajoutez à ça un jus de fruits industriel blindé de sucre. Ajoutez à ça la fameuse pâte à tartiner chocolatée italienne.
Ouais, mais il y a tout ce qu'il faut pour la journée.
Attendez,
la démarche, je vous trouve injuste. Parce que moi, j'ai vu la pub. Voyez, ils disent qu'avec un peu de pain et la dose de la pâte, vous avez tout ce qu'il faut pour un enfant.
Tu veux dire, oui, avec un jus d'orange qui est même
ils
pas. Ils ont même pas.
T'es refait pour la journée.
Eh, Philippe, regarde même dans la pub, ils en ont tellement rien à cirer qu'ils ont même pas mis un jus d'orange frais. Ils mettent un espèce de jus d'orange jaune. Jus d'orange, on sait que c'est pas. Même, tu vois, ils osent même pas mettre un bon jus d'orange d'orange. T'imagines?
Et donc, au bout du compte, le petit déjeuner de n'importe quel enfant en France aujourd'hui, c'est blindé de sucre. Il y a un vrai souci. Juste comme ça, pour rappel, un ouvrier parisien en 1900, il mange deux sucres par jour. Un aborigène australien, avant l'arrivée de Coca-Cola en Australie, il mange deux sucres par an.
Et aujourd'hui, c'est 40 sucres. En fait, vous dites que c'est 40 sucres par jour pour le français.
Oui, absolument.
On a multiplié par 20.
Ouais, c'est ça. Et les aborigènes australiens ont été littéralement pris en otage par les grandes marques agroalimentaires et sont devenus complètement dépendants. Et il y a eu des programmes sanitaires de mis en place pour essayer de les désintoxiquer, avec y compris des gens dans les supermarchés où ils achetaient les produits sucrés, qui leur expliquaient comment ils pouvaient trouver des alternatives à tout ça et comment ils pouvaient retourner à leur alimentation d'autrefois dans le bouche australien qui ne comprenait aucun glucide rapide.
Mais aujourd'hui, on a une logique qui est imparable. C'est-à-dire que, on va pas se le cacher. On va dire un peu la vérité. Tout le monde le sait. Les lobbyistes dans le sucre, ils sont aussi dans les lobbyistes pharmaceutiques. On vous vend du sucre, on vous vend de l'insuline derrière parce que vous attrapez le diabète. Aujourd'hui, tout est fait pour que vous puissiez consommer de tous les côtés. Et moi, comme je dis toujours, je l'appelle la triangulaire. C'est-à-dire que le lobbyisme du sucre, qu'il soit pharmaceutique ou qu'il soit celui du lait, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes dans un seul but. Une élite, tout simplement, qui est au-dessus de nous et qui nous dirige, alors que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans... Peu importe dans ce qu'on utilise. En tout cas, tout ce que je sais et tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que, et Bernard le confirme avec le sucre, mais pas que, 90% de ce que nous consommons, c'est du poison. C'est aussi clair que ça, d'où le sucre.
Après, tout dépend des doses qu'on utilise.
Attends, je te donne un exemple tout concret. Est-ce que tu as vu les études qu'il y a sur le mélange du sucre et du sel? C'est pas moi qui les invente. Alors, quand tu manges une soupe Liebig, c'est un exemple parce qu'il faut...
Ah oui, il y a la soupe aussi.
Oui, mais justement, mais parce qu'on en a parlé, on en a fait une émission sur les Liebig, si tu te souviens, on avait fait cette émission là-dessus. La tonne de sucre qu'ils vont mettre pour calmer la tonne de sel. Donc finalement, le mélange des deux, et qu'on vous dit, il y a 15% de légumes à peine, et encore, il faut voir comment ils ont été travaillés, donc vitamines, il n'y a plus rien, et qu'on vous dit que c'est bon pour votre santé, et que les gouvernements, les lobbyistes sont tellement puissants que les gouvernements laissent faire ça, puisque celui qui doit contrôler ce qui se passe dans les télés, je suis désolé, c'est quand même le gouvernement qui doit dire, attention, c'est pas bon pour vous.
Oui, alors, voilà. Il faut mettre quelques bémols à ce discours.
Le principe du chef, c'est qu'il mettrait peu de bémols. Il n'est pas là pour ça non plus.
Oui. C'est qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions qui sont prises par l'Union européenne, par l'OMS, par les différents gouvernements. Je parlais de la taxe au soda tout à l'heure.
Oui.
Il y a des recommandations,
il y a des couleurs, machin.
Quand on regarde, par exemple, l'effort qui est réel aujourd'hui dans les cantines en France pour que les enfants mangent autre chose que du sucre, du gras, etc. Ça va plutôt dans le bon sens.
Je suis d'accord, Bernard. Ils vont manger des rouleaux roll-up de chez Monsanto. C'est encore mieux.
Il y a de plus en plus de gens qui aujourd'hui essayent de faire en sorte que dans les cantines,
on a été trop loin. Aujourd'hui, on a été trop loin.
Pour rattraper
ce qui se passe actuellement, la catastrophe, il va falloir faire des très, 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 très gros efforts.
Bon, comment McDo a-t-il eu l'idée de servir du coca avec ses sandwichs? Parce que c'est pas venu comme ça, on verra ça dans un instant.
À votre santé. revient dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bon, c'est vrai, le chevalet, il exagère, mais ça fait partie de son genre de beauté. Il a raison. On a choisi de parler du sucre aujourd'hui parce que demain, c'est le début du mois de Ramadan. Et que
j'assume, quand même.
Je sais, à votre décharge.
Tout ce que vous voulez, pas de problème,
mais
d'habitude.
Pendant le mois du Ramadan, vous mangez trop sucré. Et c'est vrai que pendant ce mois-là, les gens font pas attention et se retrouvent avec des catastrophes, notamment des diabètes qui augmentent. Alors, c'est vrai, alors en Algérie, dans tous les pays, beaucoup de pays du Maghreb et des pays d'Afrique, aujourd'hui, il y a un fléau du diabète, mais on parle pas assez de ce sucre qui est un poison qui ne dit pas son nom.
Tu sais comment tu fais pour reconnaître dans un pays de consommation de sucre, tu t'arrêtes à l'aéroport, au bar et tu regardes les gens qui consomment le café. Et là, tu vas comprendre. Par exemple, en Algérie, quand tu vois que le gars, il a 3 centilitres de café et qu'il met 4 sucres, tu comprends qu'il y a un très, très... Et puis qu'il va manger derrière des gâteaux qui sont aromatisés au sucre, au sirop de sucre. Après, en une seule prise, en un seul gâteau et un seul café, il a consommé 3 fois sa dose de sucre dans la journée. Comment tu vas faire pour lui dire que voilà?
Bon, Bernard Pellegrin est notre invité. Vous êtes journaliste, Bernard Pellegrin. Vous publiez Sucre, enquête sur l'autre poudre chez Thaïlandier. Vous expliquez que le sucre, alors vous dites, oui, mais non, la plupart des gens ont l'impression de pas énormément sucrer. Non, mais en fait, vous, ce que vous expliquez, c'est que le sucre est présent dans 80% des produits qui sont vendus actuellement dans le commerce. Il y a le sucre qu'on voit, et puis il y a le sucre et tous ses dérivés. C'est là la dérive, finalement. Et c'est un sucre qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, et qu'on ne soupçonne même pas. Je vois là parler des soupes.
Alors, il y a le sucre qu'on voit. Si on veut aller caractériser comme ça, il y a le sucre qu'on ajoute soi-même, en pleine conscience. Vous mangez un yaourt, vous mettez un peu de sucre, c'est vous qui l'avez mis. Vous faites une tarte, vous mettez du sucre, c'est vous qui l'avez mis. Après, il y a le sucre qu'on ne voit pas, le sucre caché. Je parlais tout à l'heure des filets de dinde halal, on peut multiplier les exemples. Et puis après, il y a ce que les Américains appellent le fantôme du sucre. Qu'est-ce que le fantôme du sucre? Le fantôme du sucre, c'est par exemple pour des jeunes filles aujourd'hui, acheter des parfums ultra sucré, parce que ça laisse un sillage de sucre, que sans doute c'est plus séduisant, et que les marchands, les fabricants rajoutent le plus possible de sucre dans des produits qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, comme
les bougies, le tabac,
toutes ces choses-là, parce que ça se vend mieux. Si vous vendez un parfum qui est presque un peu amer ou qui est presque un petit peu...
Pour le palais de ces messieurs.
Voilà, ça ne le fera pas. Si vous vendez, et on sait bien que aujourd'hui les principaux succès de la parfumerie sont des parfums extrêmement sucrés, ça se vendra beaucoup mieux. Donc il y a ce fantôme du sucre qui est absolument partout, dans les odeurs, dans les parfums, effectivement dans certains tabacs, parce que les jeunes aiment que ce soit un peu sucré. Dans certaines boissons, il y a énormément de cocktails qu'on vend aujourd'hui dans les supermarchés dont les jeunes sont friands, qui sont extrêmement sucrés et ils adorent la combinaison du sucre et d'alcool. Le sucre,
le thé,
c'est
par
bon.
Exemple, toutes les boissons à base de thé. Alors là, c'est.
Et puis après, il y a l'alcool qui fait son effet, mais. Voilà, on n'a pas eu l'amertume que peut avoir un alcool ordinaire, etc. Donc, le sucre est partout et même sous forme de fantôme.
Voilà, dans les bougies, tout ça.
Mais avant, on a parlé d'alcool. Mais je rappelle juste un petit détail en même temps, c'est que l'alcool déjà en lui-même, c'est super sucré. Alors, quand vous y rajoutez le Red Bull, comme vous faites justement whisky, Red Bull, tout ça, effectivement, whisky coca, par exemple.
Même ce qu'on appelle maintenant les prémix, c'est-à-dire des alcools qui sont fabriqués par les grands groupes et qui sont très souvent un mélange d'alcool et de fruits.
Ouais.
Vodka framboise, vodka cassis, gin mangue.
J'ai vu bière grenade, tiens.
Voilà.
Bière grenade.
Voilà. Toutes ces bières, tous ces alcools qui sont très souvent d'ailleurs parfumés avec des fruits. Enfin, des fruits. Avec des sirops de fruits.
Ils n'ont jamais vu les fruits.
Avec des arômes de fruits et qui sont extrêmement sucrés. Et on sait bien que l'alcool. Alors évidemment, Beurre FM, c'est pas la meilleure antenne pour parler d'alcool.
Il
y a des gens, vous savez,
on n'est pas épargnés.
Il y a vraiment c'est très éclectique comme.
D'accord. On sait bien que de l'alcool pur.
J'en connais plein qui s'arrêtent de boire 40 jours avant le mois de Ramadan parce que, histoire d'arriver en.
J'en connais qui s'arrêtent la veille aussi.
Ah oui.
Donc, toute cette industrie des boissons alcoolisées est aussi un vecteur de consommation de sucre.
Les eaux minérales. Oui, sucrées, aussi. Attention, c'est pas de l'eau, hein.
Non, non, on rajoute du sucre partout. C'est pour ça que les Américains, qui sont toujours extrêmement inventifs en matière de vocabulaire, ont inventé cette expression, la civilisation du sucre. On est dans une civilisation du sucre, et cette civilisation du sucre était totalement inconnue il y a encore 50 ans, ou 60 ans. Les gens n'avaient pas besoin de sucre en permanence autour d'eux, dans leur parfum, dans leur maison, dans leur... voilà.
Mais c'est eux qui nous ont créé le...
Ah bah bien sûr.
Comme le lobbyisme du lait. Le lait, on vous a dit qu'il fallait 3 produits laitiers pour être en forme, on a toujours fait croire. Le sucre, c'est exactement pareil. En fait, nous sommes les produits de ce qu'on a fait de nous, c'est ce que je dis toujours.
Alors malheureusement, c'est une société basée sur la consommation.
C'est une évidence, voilà. On est esclave même de ce que l'on consomme.
Voilà, j'aimerais qu'on comprenne bien comment on est passé des abeilles à la canne à sucre et à la betterave.
Ah, un peu d'histoire.
Mais non, c'est bien. Comment on en arrive là? Parce qu'au départ, le miel, voilà, on en parle.
Alors au départ, les hommes ne se contentent du sucre de la nature. Donc le miel des abeilles, le miel des dattes. Le miel, des pêches, des abricots, des cerises, etc.
Bon. Tout ce qu'on pouvait avoir comme nectar sucré.
Le miel, voilà, le sucre dans la nature. Le sucre sous la forme d'une canne à sucre arrive d'Inde, dans l'histoire, il y a très longtemps, 6-7 000 ans. Un des compagnons d'Alexandre le Grand parle dans ses mémoires de ce bâton qui est sucré sans abeilles. Ça l'étonne beaucoup, il parle de la canne à sucre, hein. Il n'y a pas d'abeilles et c'est sucré. Voilà. Et au fur et à mesure, le sucre s'installe, notamment avec les conquêtes arabes, beaucoup.
Qui créent les premières raffineries.
Alors les raffineries viennent un peu plus tard, mais effectivement les premières raffineries viennent. Et puis nous, en France en particulier, on bascule du côté du sucre de betterave à cause d'un événement historique, le blocus de Napoléon,
faut le dire.
Qui fait que la canne à sucre n'arrive plus des Antilles en France et que donc il faut trouver...
Guerre avec les Anglais. Hein.
Voilà, il faut trouver un végétal qui va remplacer la canne à sucre. Napoléon demande à ses scientifiques de trouver ce végétal, et c'est la betterave.
Ça faillit la carotte.
C'est la betterave. Et c'est le meilleur rendement en sucre, ce qui fait que la France est le premier producteur de sucre betteravier dans le monde. Et alors pas de sucre tout court, mais de sucre betteravier. C'est le Brésil. Et le premier producteur de sucre en Europe.
Donc c'est comme ça qu'on arrive à ce sucre-là. Expliquez-moi comment aujourd'hui, alors que bon...
Il y a une petite chose intéressante, pardon, je vous coupe.
Allez-y Bernard, fais-moi, allez-y.
Historique, c'est le lien entre le lien du sucre avec l'esclavage. C'est-à-dire que quand l'esclavage s'installe en Occident, 17e, 18e siècle, c'est beaucoup parce qu'il faut des gens pour couper la canne à sucre. Et il y a dans le Zadig de Voltaire un passage célèbre. Où Zadig se promène et rencontre un esclave qui est amputé des mains, des pieds, et il lui explique à Zadig que si c'est comme ça, c'est parce qu'il a voulu s'enfuir de la plantation de canne à sucre et qu'on l'a rattrapé, qu'on l'a mutilé pour le punir, et il ajoute et c'est comme ça que vous mangez du sucre en Europe. Et je trouve ça formidable qu'au 18e siècle, l'immense Voltaire fasse savoir aux Français, aux Occidentaux, que leur sucre est empoisonné par l'esclavage.
Alors, des gens comme vous, il y en a...
C'est un jeu de mots quand même. Hein. Leur sucre est empoisonné par l'esclavagisme. On est esclave du sucre aujourd'hui, c'est quand même un jeu de mots.
C'est vrai.
Aujourd'hui, on est tous esclaves du sucre. Qui peut dire... Allez, moi je vais prendre l'effet contraire, Bernard. Quel produit on a sans sucre maintenant?
Sans sucre, le sel.
Ajouté.
Ouais, pas mal.
L'huile.
Et encore le sel, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de sel.
Ça c'est clair.
Non, il y a très peu de produits. Oui.
C'est grave. C'est là qu'on voit que la puissance, que je pense même que si tu devais faire un classement, le sucre, il serait en numéro 1 avec les produits pharmaceutiques après. Mais enfin, le sucre, il est partout. On l'a partout. Aujourd'hui, si vous voulez ne pas consommer de sucre, je crois que c'est quasi impossible.
Une fois, il faut en consommer.
Des glucides. Hein. On doit consommer.
Mais des glucides. Ce qu'on appelle des sucres complexes.
Exactement. Voilà. Pour bien faire comprendre la différence entre le sucre raffiné qui se digère très très rapidement et qui se stocke dans le foie, les glucides, on en a besoin, bien sûr, on les trouve dans la légumineuse, dans le pain également, quand les farines sont... parce que le gluten crée beaucoup de glucides, la fermentation en fait crée du glucide, mais si les blés sont bons, les glucides sont très bons et le corps les reconnaît. Donc il va s'en servir comme une très bonne énergie. Le problème du sucre raffiné, c'est qu'on va le consommer tout de suite. On va avoir une poussée, on va dire, inconsciente.
Un shot.
Oui.
Un shot,
Mais ça dure 5 minutes. parce qu'en fait, ils sont très vite en fait extirpés. Donc ils se stockent directement dans le foie et donc on recrée une envie et une faiblesse et une fatigue derrière. Alors, et c'est un.
On n'a pas parlé des maladies. Malgré tout, faut en parler un peu. Oui, des maladies qui sont liées au sucre. C'est important quand même pour vos auditeurs de savoir que le diabète explose à cause de la consommation de sucre, sans doute. L'obésité explose mondialement à cause de la consommation de sucre. Et puis il y a d'autres choses qui sont apparues. Il y a aujourd'hui une maladie qu'en français on appelle la maladie du foie gras, non pas pour désigner
la NASH.
Voilà, la NASH, qui sont des maladies qui induisent une cirrhose du foie, puis par la suite un cancer du foie, alors que l'alcool n'y est pour rien, mais la consommation de sucre fait que le foie devient malade.
Il y a 3 ans dans cette émission en Ramadan, avant le Ramadan, on regardera sur les podcasts, j'ai expliqué que d'ici 5 ans, on aurait cette maladie qui arrivait, puisque le mode de consommation ne pouvait plus nous permettre de continuer, notre foie ne peut plus, notre corps à un moment ne peut plus supporter, surtout pour beaucoup de gens, c'est la maladie du siècle et c'est en train de revenir de plus en plus.
C'est l'atopathie. Il faudrait ajouter à ça le cancer ordinaire, même si les liaisons scientifiques sont pas complètement...
Par contre, on sait que les cellules cancéreuses aiment le sucre.
Elles se nourrissent
de sucre.
C'est clair que c'est la preuve étant. Donne l'exemple toujours concret, Philippe, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent. Quand quelqu'un est atteint d'un cancer ou d'une tumeur et que, par exemple, celle-ci est métastasée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va injecter une seringue de glucose afin de récupérer, de voir le nombre de métastases qu'il y a. C'est vous dire, et encore pire que ça, un cancer, on peut tous avoir un cancer, il est très faible au départ, le mélanome que l'on a dans le corps sont très très faibles au départ, et ils grossissent en même temps que vous. Ça veut dire que c'est vous et votre consommation. Plus vous allez donner du sucre et des mauvais produits, plus votre cancer va grossir. C'est pour ça qu'il est indétectable au départ, au scanner, et qu'on le voit quand il est souvent en retard, c'est à cause de ça. Donc essayez de, voilà, aujourd'hui cette émission est faite sur le sucre, essayez vraiment au moins de réduire votre consommation de sucre, ce sera vraiment bien.
Pendant le mois de Ramadan, faites attention au sucre que vous
consommez. Surtout pendant le mois de Ramadan.
Et puis, on le voit, l'industrie aujourd'hui, qui contourne toujours tous les messages, arrive à vous expliquer que c'est moins sucré, parce que eux aussi, ils s'adaptent, hein. Les messages s'adaptent.
Très vite.
Et l'industrie très vite s'adapte. Donc,
sur les pays développés, les États-Unis, l'Europe occidentale, etc., il y avait un vrai danger pour des sociétés comme Coca-Cola, par exemple, mais pas qu'elle, de voir leur chiffre d'affaires s'effondrer parce que les gens se tournaient, plutôt se détournaient du coca à cause du sucre. D'où le coca zéro, l'aspartame, la stevia, toutes ces alternatives, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs quels peuvent être les effets sur la santé, mais toutes ces alternatives au sucre ordinaire.
Bernard Pellegrin, votre livre s'appelle « Sucre, enquête sur l'autre poudre » chez Talendier, c'est passionnant. Chef, voilà, vous êtes là, parce que c'est vous, ça y est, ça commence la saison, pépère.
On visite en Inde aujourd'hui, on va visiter l'Inde.
Ce soir, le Tour du Monde, nouvelle émission, 18h-19h, le Tour du Monde du Chef Voilà, présenté par Manuel Mariani. Tous les soirs, une nouvelle destination, les conseils, les trucs, les astuces du Chef Voilà, profitez-en. 19h, Ramadan et compagnie, Ramadan & Co, on vous donne rendez-vous pour parler de la consultation des musulmans de France, on en parlera. Et puis à 20h, vous avez rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun qui fait sa rentrée. Allô l'imam, vous pourrez l'appeler. Il a réponse à tout, vous verrez, c'est formidable. Merci Bernard Pellegrin d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Aujourd'hui, très belle journée sur Beurre FM.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.